What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get
ready.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas de fils. Papa, j'ai pas de fils.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Cinémascope. Je vais faire un peu ma Sophie. Bonjour les Martiens, bonjour les Vénusiens et salut à tous les Jupitériens. Non, les Jupitériens restent dehors, nous sommes deux. Olivier, votre serviteur à l'animation et un peu moins à la chronique. Et puis Didier, bonjour.
Bonjour.
Didier. Voilà.
Et Sylvain aux manettes, comme d'habitude.
Et comme d'habitude. Bonjour. Et qui nous a sur un plateau pêcher des sons de première grandeur pour une émission en trois chapitres, les films à l'affiche. Nous n'en avons vu qu'un, Didier et moi, je parle
et
des
le
films.
Même.
Et le même, qui plus est, le Turc. Et donc voilà, les films à l'affiche, deux mots sur ce qui passe à droite à gauche. Premier chapitre, deuxième chapitre, le festival du film japonais Hanabi, feu de fleurs Hanabi, un festival, on va en parler. Troisième chapitre, hommage à Jacques Rosier, c'est Didier, bien entendu, qui est beaucoup plus savant que moi, qui m'a soufflé la quasi-nécessité de rendre hommage à cette figure de la nouvelle vague. Pour commencer donc les films à l'affiche, alors nous avons vu, Didier et moi, Burning Days, un film turc que j'avais moi découvert en 2022 aux Rencontres des cinémas d'Europe. C'était le 25 novembre, en salle 2, il était 10h30 du matin.
C'est très précis.
Voilà, parce que je garde mes tickets de cinéma. Je suis un grand maniaque. Voilà, donc ça avait été... pour le dire simplement, un grand plaisir cinématographique que de voir ce film, visuellement très spectaculaire, la couleur, l'image, un jeu d'acteur précieux avec je vais pas me lancer dans la prononciation des noms turcs, ça serait une catastrophe, mais il y a un jeune acteur qui joue le juge qui débarque en fin fond de l'Anatolie pour faire son métier et on va pas le laisser faire, j'en dis pas plus parce que c'est quand même très 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 suspense. Un film donc sorti en 2022 puis de nouveau en 2023 le 26 avril en salle. 2h08 de plaisir visuel et de tension dramatique parce que je crois pouvoir le dire, Didier va peut-être confirmer, c'est un film un petit peu à la croisée des genres.
Bah, c'est exactement ça. Donc, je vais aller un tout petit peu plus loin que toi. Donc, ouais. ce jeune procureur, il faut quand même spécifier qu'il a une très, très haute idée de sa fonction et qu'il est d'une droiture absolument irréprochable et qu'il entend bien que les notables de la ville où il arrive soient du même avis, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Puisqu'on est en plus à la veille des élections. C'est l'été. Il fait une chaleur absolument insupportable et on sent cette chaleur qui baigne tout le film et nous-mêmes, dans la salle, on a envie de tomber la veste, je dirais. Le problème, c'est que la ville manque d'eau. Et il y a un gros souci. Les nappes phréatiques sont surexploitées. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi peut-être approcher un petit peu comprendre.
En Espagne également.
Voilà, chez nous aussi. Voilà. Et il se produit un phénomène, alors qu'un phénomène réel. Je suis allé lire l'interview du réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'effondrements autour de la ville qui forment des cratères, mais absolument gigantesques. C'est visuellement très très impressionnant. Et d'ailleurs, c'est l'affiche du film qui est très très belle et qui présente ça.
C'est la fin du film.
Et c'est la fin du film aussi. ils appellent ça les dolines. Oui, c'est, dolines. C'est cratères qui se forment comme ça. Et donc, le film va effectivement se trouver à la croisée des genres cinématographiques entre films politiques. Et moi, j'ai beaucoup retrouvé la veine des films politiques français des années 70, hein, où effectivement, des représentants de l'État, soit des flics, soit des juges, s'érigeaient en justicier et ça se terminait pas toujours bien, d'ailleurs, à l'époque. C'est une allégorie, évidemment, sur la Turquie d'aujourd'hui, avec la espèce de corruption institutionnelle qui règne, les manipulations. Et d'ailleurs, on est au lendemain des élections turques. Je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs qui ont été très, très étonnés de la réélection relativement aisée de Erdogan.
52% à peu près.
Voilà. Ouais. Et quand on voit ce film, on comprend le mécanisme qui fait que ça reste possible.
Le populisme ambiant également.
Et le populisme ambiant. Donc, effectivement, on peut le ramener à ça. C'est aussi, tu l'as évoqué, c'est aussi un excellent polar avec une tension, mais qui monte au fur et à mesure que le film avance. On finit complètement accroché au bras de son fauteuil.
Avec quasiment une dimension d'enquête un petit peu à la Agatha Christie, avec des éléments, des traces qui vont permettre au juge de restaurer ce qui s'est réellement passé.
Oui, peut-être, parce que ça reste quand même... Le film travaille beaucoup aussi sur l'effet de manipulation. On sait plus bien à un moment qui est qui sont les gentils, qui sont les méchants, enfin, pour schématiser. Et la manipulation est très, très présente. Et ce pauvre homme va en être quelque part la victime. Et puis, au-delà du polar, il y a un troisième point pour moi et tout, c'est aussi un western. Et on a des chevauchés en voiture, évidemment, mais dans le désert, vers ces grands lacs qui sont absolument magnifiques, et visuellement également. Donc la mise en scène, on peut le noter, est absolument impeccable, et fait vraiment appel, dans ces séquences-là, par exemple, à des séquences western qu'on peut se rappeler, western américain, avec des cadrages au millimètre. Et on a visuellement, je crois que vraiment l'image que j'en retirerai la plus marquante, c'est vers la fin du film où on a une course-poursuite nocturne dans le désert. Vue de drone qui est absolument incroyable et qui nous offre là un spectacle visuel très très étonnant. Voilà, donc au final, je pense qu'on peut voir ces effondrements qui se produisent et comme des gouffres où, quelque part, la société turque est en train de sombrer aujourd'hui. Donc vraiment un film magnifique, un film nécessaire, je pense, pour le pays et un grand film de cinéma.
Un grand film de cinéma, tout à fait. Moi, ça m'a replongé en même temps. Ça ferait presque une dimension supplémentaire au film. On est quand même en Anatolie, on est dans une zone de grande culture, hein. C'est là qu'a lieu la guerre de Troie, c'est par là que le christianisme est passé en gagnant l'Europe, partant de la Syrie, de la Palestine. C'est donc une cette culture ancestrale, elle est présente dans le film à travers l'architecture du village, enfin, etc. Donc effectivement un film assez complet dont on pourrait peut-être découvrir la bande-annonce, si vous parlez couramment turc, comme nous le faisons facilement.
Savcı bey, ben avukat Şahin Öztürk. Kusura bakmayın savcım, bu kadar zamandır bir hayırlı olsuna gelemedik.
Merhaba savcı bey, nasıl, sevdiniz mi yanıkları?
Havamız iyidir de, işte bir sıkıntımız su.
Ya sizin için işte öyle küçük bir program savcım.
Yalnız Sayın Başkan, ne programı, niye zahmet ettiniz böyle?
Bizim burada cingen bir kız Yaşar. Fena hırpalamış şerefsizler.
Tehlikelidir burası.
Bir şeyler hatırlıyorum da, işte tam değil.
Hapın etkisindeydiniz.
Meselenin ucunun size de dokunacağını düşünmeden soruşturma açmanız büyük cesaret.
Hakim Hanım, duruşmadan önce beni baskı altına almaya çalışıyorlar.
Kasaba çalkalanmış Emre Bey.
Bu adamdan uzak durun Emre. Sizin kariyerinize mal olabilir.
su vaadiyle yıllardır oy topluyor milletten.
Bir gözaltı yapalım.
Her şeyi talan edip ateşe vermişler.
Voilà, vous aurez donc peut-être eu l'occasion, en entendant cette bande-annonce, d'avoir la sensation que nous avons eue, Didier et moi, en voyant le film, d'être pris dans un étau dont on ne savait plus bien comment sortir. Eh bien, nous allons quand même en sortir, prendre l'avion, quitter la Turquie et aller au Japon, à l'occasion d'un festival national, un festival du film japonais intitulé « Les saisons... » Hanabi, au sens strict, les saisons feu d'artifice, fleurs, feu de fleurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un film par jour, du 7 juin au 13 juin. Ça se passe pour nous, donc, au navire à Obena. On est donc en plein dedans. Ce soir, ça sera la beauté du geste. Est-il besoin de présenter le cinéma japonais ? Je ne sais pas. Je serai de toute manière tout à fait incapable, et puis ce n'est pas le lieu de vous fournir une encyclopédie de poche du cinéma japonais. Mais on sait très bien qu'il nous réserve des trésors et qu'il a ses classiques. Donc, Didier, toi aussi, tu as été alerté par ce festival.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas pu voir les deux premiers films. J'irai probablement en voir un ou deux. Donc, on va pas vraiment parler des films, puisque, à une exception près, ce sont tous des films en avant-première. Ouais. Alors, juste revenir un petit peu sur les saisons Hanabi. Avant ce festival, qui est le premier, donc qui normalement est censé se renouveler, c'est un programme qui a été lancé par le Japon, et donc sûrement par sûrement par l'organisme qui gère le cinéma au Japon, et qui propose déjà depuis un an ou deux des sortes d'abonnements DVD où tous les mois ou tous les trimestres, je ne sais plus exactement, on reçoit, suivant un abonnement qui est tout à fait abordable, un petit coffret de DVD de films japonais.
D'accord.
Voilà, donc là, pour revenir un petit peu sur le programme, deux films de Koji Fukada, qui est le réalisateur le plus connu des films qui sont présentés dans ce festival.
Hein, et donc, qui sera rencontrable en France, je crois, Fukada. Je crois qu'il viendra en France. Et
Très prochainement, le film d'ouverture qui a été montré mercredi, qui s'appelle Love Life, sort le 14 juin, donc mercredi prochain. Voilà. Et donc, c'est le réalisateur de films que les amateurs de cinéma asiatique et japonais se rappelleront, puisque très récemment, il y a eu une sorte de diptyque, « Fuis-moi, je te suis » et « Suis-moi, je te fuis », en 2022. L'infirmière, en 2020, que peut-être tu as vu à l'époque, et le film qu'il a fait connaître en France, « Harmonium », en 2017. Donc il a eu l'honneur d'ouvrir donc ce festival mercredi avec Love Life, et il sera également le réalisateur du film de clôture mardi prochain qui s'appelle La Comédie Humaine et qui sortira lui officiellement le 9 août. Ensuite on a Rendez-vous à Tokyo qui est un film d'un réalisateur que je ne connais pas, Daigo Matsui, qui sortira le 26 juillet. La beauté du geste de Sho Miyake, qui sortira le 30 août. Coming Soon, alors qui est un film un peu atypique dans le programme, puisque lui est déjà sorti. Je crois que d'ailleurs, il a été montré au navire très récemment, et qui est un manga. Ouais. Et un thriller, A Man, de Kei Ishikawa, qui sortira, alors lui, carrément en 2014, en février. Et une comédie qui s'appelle Comme un lundi, en français en tout cas, et qui sortira lui également en 2024, en janvier.
Voilà.
Voilà, donc une très bonne opportunité de découvrir des films du cinéma japonais contemporain en avant-première, de prendre un petit peu d'avance sur l'actualité.
Voilà, c'était donc notre second chapitre de cette émission Cinémascope du 9 juin. Audible d'ailleurs ce soir. hein, autour de 17h.
Et oui, puis... alors d'ailleurs, ça on peut le spécifier, donc effectivement tu l'as dit tout à l'heure, les un film par jour et systématiquement sur les séances de fin d'après-midi.
C'est ça, 18h30.
Ou 17h, enfin entre 17h et 18h suivant les jours.
C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Tu as raison, tu as raison. Donc surveiller le programme, moi j'avais imprimé que c'était systématiquement à 18h30. Non, c'est la séance de fin d'après-midi, ne la ratez pas, elle est unique. Voilà, troisième chapitre de cette émission, troisième chapitre qui m'a été soufflé bien entendu par Didier. Il s'agissait pour nous de parler de Jacques Rosier, qui nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, le 2 juin 2023. Il nous a quittés à l'âge de 96 ans.
C'est ça.
C'était le rescapé de la nouvelle vague. Quand Agnès Varda est partie, Godard a dit « on n'est plus que deux ».
Godard et moi. Il avait un peu tort, parce que quand même, il reste Jean-Pierre Léo.
Oui.
Qui n'est pas tout à fait n'importe qui comme personnage de la nouvelle vague, et Luc Moulet, qui est toujours là, dans les Alpes, je pense, là, avec sa cinémathèque personnelle chez lui, dans sa cave et son grenier. Voilà. Mais ils ne sont plus très nombreux, effectivement.
Effectivement, parce que, bon, évidemment, Jean-Luc Godard est parti, et donc Jacques Rosier, à son tour, nous a quittés en nous laissant. C'est de la culture très fraîche hein, chez moi. Hein. Au moins 5 longs métrages.
4.
4.
4 longs métrages.
Ouais. Voilà. Donc ça, il doit y avoir un court dans la liste.
Alors il y a une trentaine de courts métrages.
D'accord.
Une trentaine de courts métrages, dont certains d'ailleurs n'ont été découverts que assez récemment.
D'accord. Un personnage, Jacques Rosier, que j'ai découvert, donc apparemment un doux rêveur un petit peu.
Alors quelqu'un de complètement atypique, y compris pour la nouvelle vague, donc c'est pas peu dire, qui a eu une courte carrière, enfin une longue carrière puisqu'il est décédé très très tard, mais qui malheureusement parce qu'il prônait la même liberté dans la vie et dans la façon de tourner que dans les scénarios de ses films, n'a malheureusement pu que tourner effectivement que 4 longs métrages qui malheureusement n'ont pas connu les faveurs du public.
Oui, je note qu'il y en a un, Fifi Martingale,
ça,
2001,
c'est
jamais,
un court-métrage,
jamais sorti en salle.
Jamais sorti en salle, mais ça c'était un court-métrage. Mais il y a des films, comme par exemple, on va revenir dessus, mais Les naufragés de l'île de la Tortue, qui n'est sorti que plusieurs années après. Et par contre, les succès critiques ont toujours été présents. Et je crois que son plus grand succès, c'est Maine Océan, qui avait réuni à l'époque 135 000 spectateurs, ce qui est quand même...
C'est considérable.
Alors, c'est considérable pour un film de Jacques Rosier, c'est peu par rapport aux quelques millions de spectateurs d'Astérix ou de choses comme ça.
Évidemment.
Mais dire que son plus gros succès a fait 135 000 spectateurs, c'est quand même pas beaucoup, quoi.
Voilà. Ah d'accord. Voilà. Moi, je trouvais que, vu la, pour moi, hein, qui suis un peu néophyte, je trouvais que ça faisait déjà pas mal de spectateurs pour quelque chose qui paraît assez confidentiel.
C'est pas un échec. C'est pas un échec, mais c'est quand même ce qu'on peut appeler, au niveau du public, un réalisateur assez confidentiel. Comme même s'il a obtenu par ailleurs le prix Jean Vigo, un certain nombre de grands prix.
Prix Jean Vigo. 86, bah, pour Maine Océan, justement. Voilà. Et bah, peut-être que Maine Océan, on pourrait entendre un petit peu.
Peut-être que juste avant de préciser, avant de revenir sur ces films, la liberté qu'il avait n'était pas la seule thématique qu'il a systématiquement abordée dans ses films. Et donc, on peut citer les principaux thèmes, la mer, les îles, le temps sans compter, dans la vie comme au cinéma, les rencontres et là où les vacances, au choix, comme on veut.
La grande vacance, peut-être.
Voilà. Hein. Et puis une sorte d'alliance de comédie. Alors c'est toujours de la comédie, mais où il a toujours su insuffler une part d'émotion, une part de nostalgie, voilà. Et pour moi, ça a été vraiment un très très grand réalisateur. Et c'est vrai que je te le disais tout à l'heure, les jours un peu sombres et tout, se regarder un film de Jacques Rosier, vraiment, c'est quelque chose de très curatif.
D'accord, et ben illustration peut-être avec, tu me le disais, et j'ai pu évidemment...
Adieu Philippines peut-être plus, peut-être pour commencer, oui.
Alors, on va commencer par Adieu Philippine. Mais oui, tu m'avais dit, dans l'ordre chronologique, suis-je bête, moi qui aime tellement l'histoire. Donc, 1962, Adieu Philippine.
Pourquoi tu disais Popa Chala ? C'est la route de Calvi, ça ?
Non, c'était l'autre. Celle-ci, c'est celle d'Ajaccio.
T'es sûr ?
Tu parles, Alfred, ça fait rien. Je préfère aller à Ajaccio. Je dois avoir du courrier qui m'attend. Tant pis pour l'autre et son fric. C'est classe. Yeah.
Mais enfin, c'est pas possible. Ajaccio, c'est bien marqué sur cette carte. Je suis quand même pas folle.
Pourtant, j'y étais toujours bien sur les cartes.
T'étais bien première en géographie à l'école.
Oui, mon gros canard.
Eh bien, à l'école, on aurait dû t'apprendre que si tu tiens une carte, en sens inverse, tout ce qui est à gauche, pense à droite.
Oui, ma cocotte.
Si tu tenais la carte à deux mains, ça te serait beaucoup plus facile.
Voilà. Effectivement, c'est savoureux. Une oui. espèce de des valseuses enfantines. Enfin, je sais pas.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors le pitch du film, comme on dit, si on veut le résumer en trois mots, un garçon est amoureux de deux filles qui sont elles-mêmes très amies. Donc il s'agit en fait d'un marivaudage amoureux, mais qui sera interrompu à la fin du film par la guerre d'Algérie. Donc on est quand même là dans une certaine actualité. Alors je vais vous raconter une anecdote qui montre bien comment Jacques Rosier pratiquait son art. Il y a eu un très gros problème avec le producteur Georges de Beauregard qui s'est désengagé de l'affaire, donc le film a eu beaucoup de mal à se terminer, et cerise sur le gâteau, il y a eu un problème technique et tous les sons ont été effacés. Et comme Jacques Rosier est quelqu'un d'une très grande liberté qui laisse une grande part à l'improvisation, il n'y avait aucun document.
Donc je il vois s'est Sylvain retrouvé. Qui fait des gros yeux parce que tous les sons effacés pour voilà. lui, il sait ce que ça peut vouloir dire. Oui.
Voilà, et donc il s'est retrouvé avec des rushs, sans aucun son, sans aucun dialogue, et sans écrit. Et donc comment ça a été résolu ? Bah Jacques Rosier dit mais on a le temps. Ouais. Donc il a pris un temps absolument infini et il a reconstitué tous les dialogues en lisant sur les lèvres des ouais. acteurs et il a fait une post-synchronisation avec tout ça. Voilà, ouais. Ça représente bien, je crois.
Oui. En tous les cas, moi, ça me donne à sentir quelque chose, ouais, effectivement.
Voilà. Donc 8-9 ans après, on a du côté d'Orouette, un autre film de vacances. Là, on est en Vendée, où trois jeunes filles complètement en roue libre oublient leur vie parisienne et leurs problèmes le temps d'un mois de septembre. Donc c'est une allégorie des joies simples, c'est-à-dire le soleil, la mer, le temps qui passe tranquillement, les surprises du jour, des rencontres qui peuvent être drôles et émouvantes. On découvre Bernard Menez, qui n'était pas encore connu à l'époque, et qui montre que c'est un sacré acteur, hein, beaucoup plus que ce qu'on peut le penser. 1976, donc vous voyez un peu les différences oui, dans le temps 72, qui sont, voilà, 76, oui. Les naufragés de l'île de la Tortue, où là on retrouve Jacques Villeret et Pierre Richard, en deux espèces de pieds nickelés qui inventent Koh-Lanta bien avant l'heure et qui lancent un programme de vacances, Robinson Crusoé sur une île déserte, dont le slogan est « Robinson, démerde-toi ». Donc ça veut tout excellent. Dire. Voilà. Et puis, pour finir, son quatrième long-métrage, qui est celui que je préfère, moi, qui est « Maine Océan », 1986, qui est un espèce de voyage surréaliste en train vers l'île Dieu, en compagnie de personnages complètement improbables. Une danseuse brésilienne qui n'a pas composté son billet et qui ne parle pas français. Deux contrôleurs en roue libre également, Bernard Menez et Luis Rego, alors qu'ils nous font un duo, mais absolument savoureux et très drôle. Une avocate qui va à Angers défendre un marin-pêcheur empêtré dans une affaire juridique surréaliste, et puis le marin-pêcheur en question qui est interprété avec un espèce d'accent incroyable par Yves Afonso. Et nous voilà partis avec ce film pour 2h10 de comédie déjantée, comme seul Jacques Rosier savait en réaliser. Et on peut peut-être là en écouter un petit extrait.
Ouais. Billet, s'il vous plaît. Ah. Vous n'avez pas composté votre ticket. Il fallait... Ishtong à la gare.
Ishtong à la gare? Non, comprenne. Qu'est-ce que c'est Ishtong?
Eh, hey, madame... Bon, alors là, je crois que c'est pas une note.
Vous avez touché une bande de gargouillou. Eh bien, petit gars, il va vous dire. Il va leur faire leur fête à tous. À tous les contrôleurs. Et ceux-là, ils vont payer pour toute la smala.
Et comment vous allez vous y prendre ?
Eh ben, il va peut-être leur faire faire un petit tour en mer. Alors, comme ça, on fait profession dans notre...
Oh non, oh, faut pas pousser le wagon.
Main océan, there is special train. Your ticket is not valuable.
Voilà.
Your ticket is not valuable.
Un exemple typique de populisme. Il faut préciser que la personne qui n'a pas shtong son billet à la gare, non seulement est brésilienne et parle brésilien, donc, mais a la peau noire. Et ça explique peut-être la manière qu'a... c'est pas Luis Rio, c'est...
Bernard Ménez.
C'est Bernard Ménez, de lui dire « Vous n'avez pas fait shtong à la gare ». Voilà. Donc effectivement, quelque chose de vraiment très réjouissant. Une fois de plus, tu donnes envie de voir les films. Hein.
Mais j'espère bien. Alors vraiment, j'espère que il y aura au moins une ou deux personnes qui auront la curiosité. Alors je pense que ça peut se trouver même en occasion. Il y a un coffret qui existe avec les 4 longs métrages de Jacques Rosier et un 5e DVD avec 2 longs métrages, avec 2 courts métrages, pardon. Et franchement, c'est une découverte à faire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment du cinéma qui nous...
Il y a de tout petits extraits sur YouTube, mais ce sont vraiment de tout petits extraits qui permettent un petit peu de se rendre compte. Mais donc, nous allons nous séparer, nous pour aller au cinéma et vous pour aller au cinéma. Il y a des films à voir, bien sûr, au navire, mais aussi au ciné à Cruas, L'amour et les forêts. Si vous n'en avez pas marre de voir Virginie Efira, vous pouvez aller voir Virginie.
On n'a jamais marre de voir Virginie Efira.
C'est ce que j'étais en train de me dire pour avoir apprécié, évidemment, Revoir Paris et puis Les Enfants des Autres, où elle était merveilleuse, dont j'avais moins aimé Benedetta, mais ce n'est pas à cause de Virginie Efira, c'est à cause de l'adaptation catastrophique d'une thèse d'histoire écrite par une Américaine et qui, au cinéma, la donne à peu près n'importe quoi. L'amour et les forêts, vous pouvez le voir aussi au Regain, au Teil, vous pouvez le voir au Quinconce, à Vals, tandis que autre acteur qu'on suit pas mal en ce moment, Roche Dizem, qui joue le principal, à voir, je pense que c'est à voir au foyer
réalisateur.
Et réalisateur également, oui. Moi, que j'ai eu l'occasion ces dernières années, d'apprécier de plus en plus, en particulier depuis Roubaix Ville-Lumière de Desplechin. Où il joue un commissaire absolument lumineux, lui aussi. Voilà, on va se quitter, content d'avoir animé cette énième Cinémascope. Merci à Sylvain, merci Didier, merci à tout le monde. Bye bye.